En début de la deuxième heure, et au cours de cette heure-là, on va parler d'automobile, de voiture électrique avec Benoît Charrette, expert en automobile. Puis on va parler des objectifs environnementaux du gouvernement québécois, mais on va s'attarder à l'aspect justement automobile. Tu sais, c'est vaste quand même le plan environnemental, il y a 40 cibles. Nous, on va s'intéresser à l'objectif d'1,5 million de voitures électriques sur les routes du Québec d'ici 2030. Est-ce que c'est réalisable en ce moment? Le parc automobile du Québec compte sur 1,3% de voitures électriques et l'an passé, 7% des voitures neuves qui ont été achetées étaient électriques. Et si le gouvernement cesse de subventionner, est-ce qu'on continue d'acheter électrique? Pas sûr, mais il y a des bonnes voitures qui se font en électrique et Benoît va nous le dire d'ailleurs. J'ai beaucoup d'amis, moi, qui ont pris le virage vert de ce côté-là. Es-tu électrique, mais non? Non, OK. Fait qu'on va en reparler tout à l'heure. Autre sujet ce soir dans l'heure, notre dernière ville, c'est à Valleyfield que nous complétons notre tournée des villes. Et je dis nous complétons, peut-être que Jérémy, parce que Jérémy Rainville sera à l'animation de l'émission demain. Je sais pas si on va poursuivre, fait que je vais pas m'avancer trop loin, mais dans mon cas, c'est la dernière ville où je m'arrête pendant mon séjour derrière le micro qui s'arrête pour quelques semaines ce soir. On va s'entretenir avec Bernard Cazat, qui, lui, au vieux clocher de Magog, divertit puis propose une programmation pour divertir la population locale et les visiteurs, les touristes, depuis longtemps avec beaucoup de succès. Comment on s'organise dans les salles de spectacle des régions pour offrir une programmation qu'on a annulée ou reportée, là? Est-ce qu'on se revire de bord puis on essaie de présenter autre chose? On en parle avec Bernard Cazat. Mais dans un premier temps, on va revenir sur la décision annoncée hier par la coroner ou le bureau du coroner qui a décidé d'enquêter sur les morts suspectes survenues en CHSLD, particulièrement au CHSLD Erron. Avec nous, leur firme d'avocats travaille souvent avec des cas, des situations survenues dans le secteur de la santé, des gens qui ont été victimes de choses qui ont plus ou moins d'allure, difficile à expliquer. D'ordre d'idée, nous accueillons l'avocat Patrick Martin-Ménard de la firme Ménard Martin Avocat. Monsieur Martin-Ménard, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous réagissez, j'imagine, positivement à cette décision-là de la coroner en chef parce que vous militez pour ça depuis un bout de temps.
Très positivement, en fait. Depuis le début de la crise, on demande qu'une enquête publique coroner soit tenue. Je pense que c'est la seule façon vraiment d'assurer là, qu'il y ait un véritable processus qui nous permette de retenir des leçons de ça, puis que le public puisse avoir connaissance de tout ce processus-là, puis assister à l'enquête, puis comprendre vraiment ce qui s'est passé.
Le fait que la coroner enquête, est-ce que ça rend moins nécessaire une enquête publique ou une commission d'enquête, ou ça va y paver la voie?
Mais je pense que chaque mécanisme qui est mis en place remplit ses propres fonctions. Les coroners, évidemment, peuvent enquêter en fait là à la base sur les décès qui sont survenus dans un contexte violent, un contexte obscur qui pourrait être lié à de la négligence. Donc, il y a un champ d'action peut-être un peu plus étroit. C'est clair qu'il y a aussi une réflexion beaucoup plus approfondie à faire sur l'ensemble de notre système de CHSLD au Québec. Là, je pense que les derniers mois ont démontré à quel point il y a des changements importants qui doivent être faits.
Oui, on est tous d'accord. Est-ce que ça passe, ces changements-là, par une enquête ou par un rapport de coroner? Vous ne le savez pas déjà un peu? C'est quoi le problème à régler dans les CHSLD? Est-ce que tout le monde ne le sait pas déjà?
On en a une bonne idée. Puis je pourrais vous donner de très nombreuses pistes de réflexion. C'est clair au départ qu'on a un système qui est complètement sous-financé, qui a été essentiellement laissé à l'abandon à coup de coupures successives par les gouvernements au cours des dernières années. On a vu dans les derniers mois là, des gens qui ont été... Bon, évidemment, on a parlé beaucoup des victimes de COVID-19, mais autour de ça, ce dont on a moins parlé, c'est évidemment toutes les personnes qui sont mortes par défaut d'avoir pu recevoir des soins de base, parce que le personnel qui était déjà en manque criant avant la crise, en fait, est tombé davantage en manque de personnel parce que évidemment il y a beaucoup d'employés qui sont tombés malades, il y a beaucoup d'employés qui ont démissionné. Alors il y avait des gens qui ne recevaient plus de soins de base. En plus, parallèlement à ça, on a empêché les aidants naturels de rentrer dans les CHSLD pour donner des soins à leurs proches. Donc il y a des gens qui sont morts de faim et de soif carrément dans les CHSLD. Alors évidemment, je pense qu'il y a...
C'est abominable. Il y a des poursuites qui sont entamées. Est-ce que ça pourrait prendre la forme d'un recours collectif ou c'est vraiment du cas par cas?
je pense que les recours collectifs aussi viennent jouer un autre rôle. Effectivement, les recours collectifs créent une sorte d'imputabilité par rapport à certains CHSLD, certains établissements qui ont commis vraiment une négligence évidente. Par contre, évidemment, je vous dirais, il n'y a pas une solution globale. Je pense que chaque mécanisme en place vient jouer son rôle. Le coroner, évidemment, a de vastes pouvoirs d'enquête qui peuvent permettre de faire la lumière justement sur des décès qui sont survenus des suites de négligence. Le fait d'avoir une vaste enquête publique comme ça va permettre de traiter de cette tragédie-là, je vous dirais, en lui donnant l'importance qui devrait lui revenir. C'est non pas une enquête qui se fait derrière des portes closes, puis on remet un rapport qui est tabletté, mais il y a un véritable processus public auquel le public peut assister, que les journalistes peuvent couvrir avec des témoignages, des témoins qui sont entendus, puis qui viennent en fait donner un peu... la version des faits de ce qui s'est passé, puis à chaque jour, on en entend parler. Ça nous permet aussi d'avoir un débat de société, ce que je pense qui est extrêmement important, parce qu'évidemment, on a beau blâmer les décideurs politiques, mais derrière ça, je pense aussi qu'il y a une sérieuse réflexion sociale à avoir, en fait, sur comment est-ce qu'on veut organiser notre système
de CHSLD. Donc, vous avez des clients, Maître Martin Ménard, vous avez des clients donc qui vont poursuivre. On poursuit quoi? Les établissements? On poursuit le système de santé? Juste un petit détail-là avant que je vous pose la question que je vais vous poser.
C'est ça, effectivement, on a déposé deux recours collectifs en fait là, qui visent des CHSLD spécifiques, donc le CHSLD Sainte-Dorothée. Où on allègue en fait que les gestionnaires ont forcé des employés symptomatiques à travailler au tout début de la pandémie, c'est ce qui a amené le virus là. Et le CHSLD Vigie Mont-Royal en fait là où on allègue qu'il y a eu un sérieux problème au niveau de la ventilation notamment qui a mené à un taux d'infection de 100%. Donc évidemment là c'est clair que mais je vous dirais c'est une goutte d'eau dans l'océan de tout ce qui a de tout ce qui n'a pas fonctionné. Mais ça joue un rôle, mais il y en a plus à faire.
Une question que je me posais par rapport à tous ces cas de poursuite. Et hier, je me souviens pas dans quel contexte, mais ça m'est revenu. Mais est-ce que, par exemple, dans des cas où on parle de maltraitance, de négligence et même de violence à l'endroit de personnes âgées qui étaient dans des CHSLD, mais comment pourra-t-on le prouver puisque plus personne n'avait accès aux lieux et aux personnes? Est-ce qu'il y a eu des autopsies pratiquées sur certaines de ces personnes-là décédées?
Oui, mais c'est clair. Puis évidemment, on peut avoir des indications, par exemple, quand une personne apprend que la cause du décès de son proche parent peut être attachée, par exemple, à de la déshydratation ou de la dénutrition. On peut avoir il y a également plusieurs familles qui avaient installé des caméras dans les chambres qui leur permettaient en fait en temps réel là, de voir un peu qu'est-ce qui se passait. Puis on a vu justement à travers ces caméras-là, par exemple, des moments où le préposé amène le repas, la personne évidemment qui est habituée à avoir l'aide au repas de son proche, ben là n'a plus accès à cette aide-là. Donc là, le repas reste devant la personne ne le mange pas. Le préposé revient au bout de 30 minutes, prend le repas, comme si de rien n'était, et s'en va avec ça. Donc là, la personne a sauté un repas. Et ça se continue comme ça jusqu'à ce que la personne meure de faim ou de soif. On a ce genre de dossier-là, avec ce genre de preuves-là. Et ça, je pense que c'est extrêmement important que ça se sache, et c'est extrêmement important qu'on fasse la lumière sur comment est-ce qu'on a pu permettre à une situation comme ça de se produire.
Le silence est volontaire, juste pour bien sûr qu'on digère ce que vous venez de dire là. C'est quoi la preuve la plus choquante que vous avez amassée là, dans un cas de poursuite là, depuis qu'on parle de ces poursuites en CHSLD? Est-ce qu'il y a pire que ce que vous venez de nous décrire?
Non, puis je vous dirais par ailleurs que c'est-à-dire qu'il y a pire. Vous savez, la maltraitance prend toutes sortes de formes. Hein. Je veux dire, ça, c'est peut-être une forme qui est tout à fait évidente. Bon, il y a des cas de personnes qui sont laissés dans leur couche souillés pendant plusieurs heures. Hein, vous savez, on a vu des cas de personnes qui ont été mis aux couches parce qu'on n'avait plus assez de personnel pour leur donner l'aide pour aller à la salle de bain. Alors c'est plus convenable pour le personnel de laisser finalement les gens en couche et après ça de prendre plusieurs heures avant de les changer. Ça aussi, c'est une forme absolument dégoûtante de maltraitance. Puis je vous dirais par ailleurs, juste pour clarifier, dans les cas que je vous ai mentionnés là, c'est pas nécessairement tous des cas où on dépose des poursuites. Les poursuites jouent un rôle très spécifique, mais on peut pas déposer une poursuite dans chacun des cas pour toutes sortes de raisons. Je vous dirais là, au niveau notamment du fonctionnement du système de justice et des coûts qui sont rattachés à ça. Et c'est là que l'enquête du coroner va venir jouer un rôle qui est extrêmement important parce que ça va permettre justement peut-être de traiter de ces enjeux-là en dehors du rôle très, très précis que les poursuites peuvent venir jouer dans certains cas.
Ouais, c'est pas mal intéressant. Avez-vous une opinion comme avocat, juste en complément d'entrevue sur l'idée d'amener 10 000 employés puis de les former, tout ça, vous qui couvrez beaucoup de cas dans des CHSLD, avez-vous une opinion? C'est une bonne chose?
Oui, je pense que c'est une bonne chose. On peut pas être contre ça. Ça aurait dû être fait, je vous dirais, il y a très longtemps. C'est clair. Maintenant, moi, je vous dirais peut-être un point positif qui ressort de tout ça, c'est qu'actuellement, le travail des préposés est beaucoup plus valorisé qu'il ne l'était au départ. Donc, je pense que ça va attirer davantage de personnes vers la protection. Maintenant, il faut s'assurer qu'on leur donne des conditions qui sont intéressantes et qui vont permettre justement d'assurer
d'installer de la stabilité. Oui, puis de l'employabilité puis de la stabilité. Eh bien, c'était pas mal intéressant de vous entendre, M. Patrick Martin-Ménard, avocat. Merci d'avoir été là avec nous.
Ça fait plaisir.
Au revoir, Maître Patrick Martin-Ménard, donc de la firme Ménard Martin, avocat. Comme un exercice, hein, quand même. OK, 20h15, et on va parler de programmation dans les salles de spectacle des régions que vous adorez visiter, pas juste pour les touristes, mais pour les populations locales qui aiment bien être diverties. On avait tout annulé, tout reporté. Maintenant qu'on déconfine, qu'est-ce qu'on propose aux gens? Eh bien, entrevue avec Bernard Cazat du Vieux Clocher de Magog dans quelques instants.